BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, Michel Biro, le directeur exécutif achat et marketing de Lidl en France, viendra nous parler du 30e anniversaire de la marque et nous fera un point complet sur le virage stratégique de Lidl amorcé il y a 7 ans. Charlotte Bricard, qui signe l'édito de la semaine, reviendra sur la communication des banques en ligne à travers la dernière campagne d'ING. Et puis on s'intéressera aux épopées publicitaires avec les dernières campagnes PMU et Coca-Cola en compagnie de Pascal Grégoire, le président fondateur de l'agence La Chose, et Timothée Loiseau, le directeur de la marque PMU HebdoCom. Ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et pour les news, Marie Valogne. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, Somfy a dévoilé cette semaine une campagne sur le ton de l'humour pour mettre en avant sa gamme de sécurité.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on découvre Josette, influenceuse du Poitou. Josette, c'est une femme âgée, mais très moderne et très connectée. Elle s'est retrouvée nez à nez avec des cambrioleurs et elle nous raconte son histoire, une histoire plutôt improbable.
C'est un cambriolage qui me dit, je sors mon smartphone. Il ne savait pas que j'étais une influenceuse. Il y en a un qui regarde mon compte, il voit 6 millions de followers. Il se met à flipper le genou. Et là, tous mes followers débarquent dans les escaliers. On est là, Josette. On a fait 2-3 selfies, puis ils sont partis vite fait. Vous les auriez vus débarrasser le plancher.
Et pour les moins téméraires, Somfy vous garantit une protection à toute épreuve.
Une campagne signée par l'agence Rébellion.
On poursuit avec le lancement d'un nouveau modèle Monkey, moto de Honda. Et la campagne qui accompagne ce lancement fait un clin d'œil à l'histoire, Marie.
Et oui, pour les 50 ans de la marque, Honda annonce le retour de son icône, le Monkey. Alors pour la petite histoire, cette moto, c'était au début un jouet. C'était une mini-moto installée en 1961 dans un parc d'attractions japonais pour enfants. Sauf que la moto, eh bien, elle a aussi plu aux parents. Elle a donc été développée pour les adultes et commercialisée. Aujourd'hui, la marque s'amuse de l'immaturité de ses grands-enfants avec des messages qui leur sont destinés. Comme par exemple, gâtez l'enfant qui est en vous, celui-ci au moins vous êtes sûr qu'il est de vous. La campagne est orchestrée par DDB Paris.
Je vois que ça vous fait rire, Frédéric.
J'aime beaucoup.
Allez, et puis une nouvelle campagne d'affichage pour Oura.fr, le site de courses en ligne qui sont livrés évidemment à domicile.
Oura s'amuse avec les plaques de rue parisiennes pour promouvoir ses services. L'avenue du Coq, parce que la livraison avec Oura, c'est dès 7h du matin. La rue de la Source, parce que Oura livre vos packs d'eau en illimité et jusqu'au 6e étage. Ou encore la rue de la Perle, parce que la qualité de leur service est inégalée, nous disent-ils. Une campagne signée par l'agence Les Présidents.
Et puis une publicité pour le moins surprenante, baptisée Oh My Dog.
De quoi vous dégoûter d'avoir un chien. On y voit des personnes âgées face à toute une série de situations gênantes sur fond de musique poignante. Un chien qui a complètement déchiré une chaussette, un autre qui a fait pipi sur le tapis, ou encore un labrador qui s'est discrètement mis dans la cuisine pour manger le gâteau d'anniversaire qui était posé sur la table. Des situations vraiment pénibles, sauf qu'on apprend aussi que la présence d'un chien peut sauver des vies. Avec un chien, vous avez jusqu'à 36% de risque en moins de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Prenez un chien. Un film pour la Fédération française de cardiologie en association avec la SPA et c'est signé Havas Paris 7.
Frédéric, c'est pour le moins surprenant là, ces deux causes mises comme ça ensemble.
Ouais. Bah comme ça, chacun sert l'autre. J'avoue que j'ai appris qu'il valait mieux avoir un chien pour ne pas mourir d'une crise cardiaque. Donc j'envisage peut-être une reconversion. Faut que je vois, ouais.
Ouais, vous allez prendre un chien ce week-end, Frédéric.
Ouais, on va voir.
Merci Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Michel Biro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif achat et marketing de Lidl en France. Lidl qui fête ses 30 ans. Et aujourd'hui, votre enseigne, finalement, elle est assez loin de l'image de hard discounter des débuts. Quel est exactement aujourd'hui le positionnement de Lidl ?
Clairement, aujourd'hui, on se positionne comme supermarché de proximité parce qu'on a 1500 points de vente à travers l'Hexagone. Et nombre qui va évoluer dans les années à venir, bien entendu, parce qu'il y a encore du potentiel. Donc, supermarché de proximité avec un assortiment sélectionné. Ça veut dire que nous n'avons que 1800 références sur nos en moyenne 1200 mètres carrés de surface.
Je me rends pas compte, moi, 1800, si c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport à une autre grande surface.
Bah, non, c'est pas beaucoup parce qu'une ancienne classique va tourner aux alentours de entre, 15 000 et 30 000.
Ah, d'accord. Okay.
Donc, nous, 1800, par contre, c'est un besoin, un produit. Donc, chez nous, ça va, c'est simple et ça va vite. Si vous voulez un petit beurre, bah, il y en a qu'un. Vous avez pas le choix entre 15 petits beurres.
D'accord. Donc c'est en fait l'héritage de votre, c'est en quelque sorte de votre période hard discount, parce que c'est quand même frappant avec Lidl, c'est quand c'est arrivé, on disait d'ailleurs, c'est moins cher parce qu'ils font pas de pub, parce que c'est très serré à tout point de vue, et puis ça a changé. Donc
alors l'assortiment sélectionné ou l'assortiment restreint, ça c'est notre ADN. Ouais. On l'a depuis le début. Ouais. Et on n'en sortira pas. Parce que si demain... Parce que c'est une force. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez... Reprenons l'exemple du petit beurre. Vous en achetez un seul pour 1500 magasins. C'est pas la même chose que quand j'en ai 10 en magasin. Bien et sûr. Donc, vous achetez des petites quantités pour chacune des références. Moi, j'achète des camions pour une seule référence. Et en plus, si le petit beurre ou si on prend une galette bretonne, elle est bonne, l'Europe entière va la prendre. Et donc, je vais non seulement acheter pour la France, mais pour l'Europe entière.
D'accord.
Vous avez amorcé ce virage stratégique là dont on parlait à peu près en 2012, je crois.
Oui, tout
et depuis,
à fait.
Vous avez pris la parole de façon assez massive pour justement expliquer aux Français le changement
tout
que vous
fait.
Étiez en train de mettre en place. Et vous étiez à tel point, je crois que vous êtes quasiment le premier annonceur ou pas loin de France
non,
aujourd'hui.
Non, nous sommes le premier annonceur depuis septembre.
C'est ça.
Non, non. On est le premier annonceur de France devant Renault et Procter, je crois.
Et justement, est-ce que ça paye?
Alors oui, ça paye. Alors même si on n'est pas encore arrivé là où on souhaite aller, en tout cas ce qu'on a en tête, mais oui, ça paye. Et quand vous faites toutes ces campagnes publicitaires, quand vous investissez dans la publicité, heureusement, j'ai envie de dire, il y a un retour sur l'investissement. Mais oui, ça paye. Écoutez, on a passé les 6% de parts de marché selon Kantar et on a gagné sur la dernière période plus de 600 000 consommateurs. Donc on est très satisfait de ça. Mais attention, il faut pas s'endormir parce que nos concurrents, eux, ne s'endorment pas, donc il faut toujours avoir un coup d'avance et c'est là où c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui c'est bien, on est content, mais demain il faut continuer à travailler.
Parce que maintenant vous avez une agence nationale, oui. Australie, qui vient d'ailleurs qui a fait longtemps la communication de l'un de vos concurrents.
Leclerc.
Vous signez,
on va le dire.
Vous signez donc une campagne pour les 30 ans avec le vrai prix des bonnes choses. C'est ce qui va structurer votre communication dans les mois à venir.
Tout à fait. Alors donc c'est vrai, on a signé avec Australie il y a pas longtemps et on est très ravis de ce partenariat. C'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres et donc on démarre avec eux sur cette campagne des 30 ans avec énormément de choses au programme et notamment ce qu'on appelle l'heure du goûter.
Ouais.
L'heure de goûter.
C'est quoi l'heure
du
goûter?
Ben en fait, on s'est rendu compte que finalement sur le prix, on avait finalement peu de problèmes parce que nous sommes le meilleur rapport qualité-prix en France et ce depuis, selon les études Kantar, depuis plus de 10 ans. Par contre, le Français a un souci avec le prix parfois, c'est que quand c'est pas cher, dans sa tête, il se dit c'est pas bon.
Ouais.
Donc on s'est dit ben quoi de plus simple que de faire goûter. Donc on invite tous les Français, on va être avec plusieurs food trucks dans plus de 320 villes en France pendant plus de 4-5 mois qui viennent là. Et on va sillonner la France dans les centres-villes, sur les places des mairies, sur les places du marché, avec nos food trucks, et on va faire déguster gratuitement les produits Lidl aux consommateurs pour dire « Non mais ouais, ce camembert-là, il vient de chez vous, c'est vrai, et il est vendu qu'à 1,19 €, et en plus, derrière, il y a un éleveur qui est correctement rémunéré. » Donc voilà, l'idée c'est ça, de la campagne. Alors bien sûr, ça sera accompagné par une campagne télévisée avec la qualité de nos produits pour dire « Tiens, est-ce que le camembert à 1,19 € peut-il vraiment être bon ? »
Ouais.
Bah venez le goûter dans nos food trucks pendant les 5 prochains mois. Et derrière, il y a toute une campagne en lieu de vente aussi, sur les lieux de vente avec des cartes à gratter, des millions de produits à gagner. On a 32 années de courses gratuites qu'on va offrir à nos consommateurs, c'est-à-dire 32 ans de courses que vous pouvez gagner sur Internet en allant sur le site. Et voilà, il y a énormément de choses qui sont prévues, mais tout sera axé autour de ces 30 ans que Lidl fête cette année.
Vous avez un food truck avec la carte de France et ça me fait penser que j'ai découvert un chiffre qui m'a paru assez saisissant dans votre communiqué. Il y a 72% de produits made in France chez Lidl.
Oui.
Mais comment vous faites?
Bah finalement, c'est pas si énorme que ça. J'aimerais en avoir plus, mais à un moment donné, c'est compliqué parce que il y a, et ça, on s'en cache pas, il y a des shampoings, des produits cosmétiques qu'on ne va pas fabriquer en France. Mais depuis 7 ans, effectivement, on a décidé d'installer une centrale d'achat Made in France à Paris. Et c'était pour justement développer le Made in France. Et une fois de plus, on s'en cache pas, on n'a pas été parfait, on n'est toujours pas parfait, loin de là, mais on avait, il y a encore 10 ans de ça, 5% de charcuterie française. Aujourd'hui, on atteint les 60-65%. On est encore loin des 100, mais dans la charcuterie, c'est pas simple. Par contre, dans la viande bovine fraîche, la viande porcine fraîche, on est déjà à 100%. Le lait est 100% français. Et on développe notre marque Saveur de nos régions pour justement aller chercher des produits locaux, parce que le français, aujourd'hui, il veut manger du qualitatif, il veut manger du local, du terroir.
C'est un vrai argument de vente, ouais. Made in France, ah, dans l'alimentaire.
Ah ben aujourd'hui, c'est hashtag Made in France, c'est mon hashtag préféré, et bien évidemment, c'est un vrai argument de vente, parce que le consommateur, même si le consommateur, faut pas l'oublier, achète encore avec son porte-monnaie. Ça, c'est très important. Mmh. Donc le prix est essentiel. Mais la qualité et la provenance est tout aussi importante.
Il y a un autre argument qu'utilise beaucoup la distribution ces derniers temps, c'est l'amour. On a vu des tas de films de l'univers.
Distributeurs.
Deux et demi, parce que même dans des secteurs un petit peu connexes, on en parle beaucoup.
C'est vrai.
C'est aussi une manière de vous.
Vous êtes très orienté produit, quoi. C'est ce que tu veux dire.
Oui, je dirais plutôt. Ma réponse est plutôt celle-ci. C'est on est très orienté produit. Ouais. C'est vrai que l'émotion, pour parler plus largement que l'amour, mais l'émotion est très important dans la communication. On fait toujours attention à cela quand même. Mais c'est vrai que le produit, pour nous, vu qu'on a ce, il y a encore des a priori à notre rencontre. Chez Lidl, les produits sont pas bons, c'est pas cher, donc c'est pas bon. Mmh. Donc il faut qu'on travaille cette qualité, il faut qu'on arrive à démontrer aux consommateurs.
Vous êtes encore sur le produit.
Ah ben on est sur le produit parce que c'est sur cet item là qu'on pêche. Donc oui, il faut qu'on travaille et il faut qu'on démontre aux 66 millions de Français que chez Lidl, les produits sont qualitativement, ils n'ont rien à envier à une marque nationale. On ne fait pas de premier prix chez Lidl. Mmh. On ne fait que des marques de distributeurs qui qualitativement sont tout à fait équivalentes. D'ailleurs, on a été les premiers et les seuls dans la distribution à faire une campagne il y a 2 ans où on a fait une comparative entre les marques nationales et la MDD. Et donc le consommateur, il goûtait une glace d'une grande marque et il goûtait la glace Lidl et il disait j'aime, mais pas au même prix.
Mais combien de temps est-ce que vous pensez que ça va prendre pour que justement les Français soient convaincus, comme vous dites, que vous avez changé de...
Alors, un changement d'image, vous le savez bien mieux que moi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas en 5 ans. Ça va prendre des années. On a 25 ans d'histoire, faut pas l'oublier, en France. Aujourd'hui, donc, grosso modo, 25 ans, pas top. Pas top, on ne renie pas cette période, attention.
Mais disons un autre positionnement.
Voilà, un autre positionnement. Mais donc, dans la tête des Français, il y en a encore beaucoup qui ont des a priori, mais c'est incroyable. Ah non, pas Lidl. Mais quand on gagne 600 000 clients sur une période, on se dit, bon voilà, il y a un changement, il y a une mentalité qui change. Et surtout, ce qui est important, faire de la communication, faire des belles campagnes télévisées, c'est facile. Et ça fait venir le consommateur. Le plus difficile, c'est qu'il reste chez nous. Et ça, c'est que à travers la qualité de nos produits. Parce que quand vous viendrez acheter le camembert, pardon, et que vous l'aurez goûté, eh ben vous allez revenir l'acheter.
Je ne sais pas si on se lèvera la nuit comme dans la pub. C'est le risque après, attention. Merci beaucoup Michel Biro. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif achat et marketing de Lidl en France.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Cette semaine, nous sommes avec Charlotte Bricard. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie.
Alors Charlotte, vous revenez sur la dernière prise de parole d'ING Direct.
Oui, bonjour Tom.
Non, moi c'est Fred.
Ah, non. Bonjour Tom, c'est une sorte de petit pied de nez au OK Google et autres dits. Siri, c'est la banque en ligne qui nous présente son Tom.
Bon alors, plus sérieusement Charlotte, qui est Tom?
Alors Tom, d'après le film réalisé par Armand Saint-Savy pour l'agence Rosa Parks, c'est la plus grande innovation de tous les temps en matière de relations clients. On y arrive donc à la rencontre, dans un film très scientofuturistique, d'un chercheur en neurosciences qui nous explique par exemple que le cerveau de Tom est d'une extrême complexité, doté de milliers de milliards de connexions neuronales, soit 10 000 fois plus que le plus sophistiqué des robots actuels, ce qui lui a permis, surenchérie la directrice de l'innovation d'ING, d'assimiler à une vitesse folle des données financières extrêmement complexes.
Et donc ça permet à une ING de lancer son assistant vocal. Moi je suis pas un robot. Peugeot.
Eh bien, justement, non. Non, c'est un petit, une fausse piste qu'a utilisée l'agence pour vanter à l'inverse les 250 conseillers humains qui œuvrent pour ING. Une façon sans doute de rassurer des Français qui sont encore un peu réticents à s'engager dans une banque totalement digitale. Les pure players ont beau arriver en tête des banques préférées des Français selon Forbes, reste que les habitudes des Français connectés sont assez ancrées, difficiles à changer. On a quelques données qui en attestent puisque, par exemple, 38% des personnes interrogées par Next Content pour CGI SAB pensent qu'un programme informatique ne peut pas se substituer à leurs conseillers. Et on sait que fin 2018, plus de la moitié des Français se disaient prêts à s'engager auprès d'une banque digitale, mais qu'au final, seuls 6% d'entre eux l'avaient choisi comme banque principale.
Alors du coup, comment est-ce que les pure players réagissent en termes de communication ?
Bien exactement comme ING, en surjouant la dimension humaine. On a vu notamment en fin d'année dernière un autre acteur qui était Before Bank revoir son slogan, qui est passé de « mon banquier, c'est moi » à « la banque, selon moi ». C'est un peu une façon de dire « vous ne serez peut-être pas si seul que ça ». Et elles sont nombreuses également à jouer sur le côté émotionnel, comme Fortuneo qui dit « j'aime ma banque » ou encore N26, la première banque que vous allez aimer.
Mais du coup, la banque d'aujourd'hui, ce serait plutôt une histoire de sentiment plutôt que d'argent ?
Absolument. En tout cas, c'est ce que nous dit également Modabank pour qui c'est les gens avant l'argent. Ce qui est amusant, c'est que c'est un virage assez radical par rapport au discours qu'avaient ces pure players quand ils sont arrivés dans le paysage. Je pense à la fin des années 90. C'était en 95 qu'apparaissait la banque directe, puis quelques années plus tard, ING. Je vous propose de revoir un des premiers spots d'ING qui date de 2004.
Cette année, la tendance est à l'argent. Avec ING Direct, le taux d'intérêt se porte très haut, avec une totale liberté de mouvement. Le style est simple, direct. L'épargne n'a jamais été aussi sexy. Le livret épargne orange d'ING Direct, c'est 5% les trois premiers mois.
C'est ce qui s'appelle un virage à 180 degrés.
Preuve que les modes changent.
Merci Charlotte.
Merci.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le Zoom du jour autour des épopées publicitaires qui font leur grand retour en ce moment. On en parlait avec vous, Frédéric, la semaine dernière autour du film Éternel pour Le Puy du Fou, qui passe comme ça à travers les époques. Et on a observé le même phénomène il y a quelques semaines avec la dernière campagne de Coca-Cola et plus récemment avec la campagne du PMU. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Pascal Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de La Chose qui signe justement la dernière campagne de Coca-Cola. Et Timothée Loiseau, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes directeur de la marque PMU. Alors pour Coca-Cola, le spot vient célébrer 100 ans de présence en France. J'imagine que quand on a un anniversaire comme ça à fêter, c'est plus facile d'aller piocher dans le passé, non ? C'est assez naturel.
Un anniversaire, c'est forcément dans le passé, même si un anniversaire peut ensuite avoir un message pour l'avenir, évidemment. Donc c'est vrai que 100 ans de présence de Coca-Cola, et Coca-Cola a voulu faire non pas un film historique, mais véritablement une déclaration d'amour aux Français. En remontrant tous ces moments merveilleux qu'on a vécu, de la libération à mai 68 aussi, et puis à la Coupe du Monde de football, Frédéric. Et donc ce sont des moments qui, au-delà de nos différences à tous, sont des moments qui nous réunissent, et Coca a voulu célébrer ça, parce que c'est la marque évidemment du partage, c'est la marque du vivre ensemble, et donc c'est ça qu'on a voulu faire. Mais c'est pas, on puise dans le passé, mais encore une fois, des événements où les Français vont à nouveau se réunir, même si en ce moment c'est un peu difficile, il faut bien l'avouer, mais il y aura des moments où ça sera plus positif. Coca-Cola sera toujours là avec nous, c'est un observateur de notre époque, ils vivent en France depuis longtemps avec nous, et donc ils ont voulu nous dédier ce film, et je trouve ça super.
Et pour le PMU, en revanche, pas d'anniversaire, alors pourquoi aller chercher comme ça des références historiques et futuristes, parce que dans votre cas, il y a les deux.
Pas d'anniversaire, nous ce qu'on a cherché à faire à travers cette campagne, c'est d'exprimer le côté très spectaculaire des courses hippiques, et l'intensité du pari. Et donc du coup, on est allé chercher une réalisation et une exécution publicitaire qui est forcément très spectaculaire, et on est allé la chercher à travers plusieurs scènes dans l'histoire française, ou pas, ou imaginaire des gens, pour symboliser le fait que les paris PMU, les paris hippiques, c'est un pari intense, et c'est sur une base de courses qui sont spectaculaires et sportives.
Mais alors du coup, en effet, on comprend très bien pourquoi est-ce que Coca-Cola a choisi ce mode narratif, parce qu'on est dans les 100 ans. Pour le coup, sur le PMU, c'est littéralement barré, faut dire les choses. Quoi. C'est-à-dire que on est effectivement très très loin de l'image.
C'est un peu la marque de fabrique de l'agence aussi, Frédéric, c'est Buzzman.
Hein. Ouais, mais du point de vue de l'annonceur, vous cherchez à avoir qui là, parce que Des nouveaux clients, des millennials, des jeunes, des...
On a effectivement réalisé cette campagne avec l'agence Buzzman, hein, qui travaille récemment pour nous, puisqu'ils nous accompagnent maintenant depuis le début de l'année, et que c'est la première campagne visible qu'on fait avec eux. Ce qu'on a cherché à faire...
Quoi, ils ont fait des campagnes invisibles ou non?
Non, ils ont pas fait... C'était la première fois en télévision avec l'agence Buzzman. Ce qu'on a cherché à faire, vraiment, c'est d'interpeller les gens. Parce que quand on parle de l'image du PMU, on a forcément une image qui manque un peu de modernité, peut-être parfois un peu poussiéreuse, ça faisait 9 mois qu'on n'était pas allé en télévision auprès du grand public. Et donc pour ce retour, on avait l'ambition d'interpeller les gens, de proposer un spectacle, parce que quand la publicité s'invite chez les gens, il faut qu'elle interpelle. Et c'est le message qu'on a cherché à faire. Donc oui, bien sûr, elle est spectaculaire, elle est assez éloignée de l'image qu'on peut avoir du PMU, mais elle raconte une chose très simple, c'est que le PMU, c'est des paris qui sont intenses, avec des émotions autour de courses qui sont très spectaculaires.
Pascal Grégoire, moi je me demandais si c'était plus difficile à réaliser une épopée publicitaire, parce que ça suppose, j'imagine, plus de décors, plus de costumes, plus d'effets spéciaux éventuellement, plus de moyens tout simplement.
Ah, clairement, c'est vrai que c'est assez surprenant l'actualité publicitaire en ce moment, avec beaucoup de nouveaux formats assez longs. Hein. La semaine dernière, c'est effectivement 7 minutes de pub. Donc on est à un croisement où la publicité devient maintenant doit être de plus en plus émotionnelle pour toucher les gens. Donc on casse les formats. Ça, c'est le digital qui l'a permis, et on fait des grands spectacles parce qu'on a besoin tout simplement d'émerger. Donc c'est à la fois logique, mais c'est vrai qu'en quelques jours, on a vu beaucoup de campagnes sur cette même logique qui est une logique complètement nouvelle et qui est intéressante d'ailleurs à observer d'un point de vue publicitaire. D'habitude, les épopées, c'est souvent pour des espèces d'auto-célébration. Il y a un vieux film Honda qui montrait tout ce que Honda avait fabriqué pendant. D'ailleurs, c'était un très bon film, mais qui ne parlait que de lui-même. Là, on est face à des projections, des émotions, des spectacles qui ne sont pas que autour de la marque, mais qui sont au niveau des gens. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Le film PMU est exactement dans ce registre, il est très fort, et c'est la première fois que PMU nous communique avec nous comme ça, et c'est très intéressant de voir qu'il y a une vraie évolution de la communication aujourd'hui. Il y a une plus grande attente des gens en termes
de... C'est quelque chose de rassurant aussi dans une époque où on voit les choses bougent, les certitudes le sont pas tellement. C'est rassurant de se raccrocher au passé, de se dire, évidemment pour Coca qui fête un anniversaire, c'est assez logique, mais néanmoins, vous auriez pu le faire aussi dans le futur et dire de Coca dans 100 ans. Donc il y a quelque chose de sociétalement, j'ai envie de dire, rassurant comme ça dans cette expression.
Pour le PMU, on l'a jugé rassurant parce que le film, même s'il est peut-être un peu loin de notre image de base, il est quand même construit autour de l'ADN du PMU. Donc il est construit autour des chevaux et du lien très fort entre le cheval et les Français à travers les grandes épopées ou les grandes phases de l'histoire. Et il est construit autour des courses hippiques et des parieurs. Donc même s'il est spectaculaire, il est quand même très en lien avec ce qui fait l'essence du PMU. Et c'est la raison pour laquelle on trouvait aussi que la création était intéressante.
Et nous, on s'est plongé dans le passé parce qu'en fait, on a voulu montrer aussi l'état d'esprit de Coca-Cola depuis maintenant 100 ans en France, et qui était de montrer, de faire une ode un peu aux différences entre les gens. C'est vrai que quelles que soient ses convictions, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, il y a une capacité à donner un message positif aux gens. Et donc, du coup, c'est bien sûr dans les exemples du passé qu'on va puiser, mais c'est aussi, encore une fois, un message d'avenir, parce que demain, à nouveau, la société va changer, les mœurs vont évoluer, Coca-Cola sera toujours là pour accompagner les Français dans ces changements et dans ces transformations. Donc c'est pas un film historique, c'est vraiment un film sur une idée simple que les différences, à un moment donné, on les oublie, parce qu'on partage des moments ensemble, c'est ça qui est le plus beau, c'est ça qui est émotionnel, et c'est ça qui fait que de voir des images qu'on connaît, de la Coupe du Monde, de mai 68, etc., fait appel à de l'intime presque, parce qu'on a tous vécu ces moments-là à un moment donné, et c'est ça qui donne aussi ce partage et cette mémoire collective dans laquelle on s'est inscrit. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui marque que vraiment les gens. C'est aussi notre métier de marquer aussi effectivement les esprits, hein, bien sûr.
Et c'est la même chose pour le PMU, c'est parce que vous vouliez aller vraiment dans cette logique-là, parce que vous auriez pu marquer les esprits aussi avec, je sais pas moi, des images de course tout simplement, parce que j'imagine qu'il y en a des très belles aussi.
On avait besoin, oui, de sortir un peu du registre des courses. En fait, le film, il est aussi construit autour du nom des chevaux. Et c'est tout le ressort, en fait, de l'imaginaire qu'on peut avoir autour des noms de chevaux de course, qui ont des noms parfois historiques, parfois un peu loufoques, parfois drôles. Et en fait, tout le film est construit autour de ce ressort-là, qui lui donne aussi un côté humoristique, qui était important dans la création. C'est que oui, c'est un film spectaculaire, mais c'est un film qui peut aussi faire sourire. Et donc, du coup, on a été chercher ces ressorts-là à travers cette création.
Merci beaucoup, Timothée Loiseau. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la marque PMU et Pascal Grégoire, président fondateur de l'agence La Chose. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.